Salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous allez bien pour ce premier podcast de cette année 2021. Alors pour rappel, le podcast Planète Sport est réalisé par la rédaction des Olympistes, un jeune média d'actualité sportive. Comme d'habitude, je suis Éloi Touot, votre animateur sur cette émission. Alors en 2021, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Au menu aujourd'hui, on a la chronique L'Olympiste de la semaine avec Axel Daillet qui nous parle de l'importance de Memphis Depay à l'Olympique lyonnais. Bien évidemment, le débat revient sur ce podcast. Cette semaine, on parle de handball et plus précisément de la génération des experts. Et enfin, on reviendra sur la fin avec la liste de Fabien Galthié pour le prochain tournoi des 6 nations. Un beau programme, allez, on est parti, à vos marques, prêts, partez! Arrivé en janvier 2017 à l'Olympique lyonnais depuis Manchester United pour 16 millions d'euros plus 9 millions de bonus, Memphis Depay se plaît maintenant dans la cité rhodanienne. Avec 65 buts depuis son arrivée, l'attaquant néerlandais est aujourd'hui un élément incontournable de la formation de Rudy Garcia. Axel Daillet nous explique cela dans la chronique L'Olympiste de la semaine.
Bonsoir à vous tous, invité spécial.
La France est fantastique, grande rouge.
Un portrait ou une interview, c'est L'Olympiste de la semaine.
Salut à tous et salut Éloi, j'espère que vous avez la forme. Et d'abord pour commencer, bonne année pour ce premier podcast de 2021. Alors aujourd'hui, dans cette chronique, on va parler de Memphis Depay, le joueur de l'OL. À l'heure où j'enregistre, Lyon est second avec 2 points de moins que le PSG. Ils jouent ce soir face à Metz, ils ont une journée en moins. La dynamique à l'OL est plutôt bonne. L'animation collective et notamment offensive fonctionne très bien, avec particulièrement l'impact de Memphis Depay en attaque. Alors c'est très probablement sa dernière saison à l'OL. Il devrait partir libre en juin prochain, en fin de contrat. Et on pensait que c'est le bon moment pour faire un petit bilan de son passage à Lyon, essayer de comprendre un peu comment il avait évolué sous le maillot lyonnais. Alors ça fait 4 ans aujourd'hui, en janvier 2021, qu'il est arrivé. Il a été recruté lors du mercato hivernal 2016-2017 en provenance de Manchester United. Et donc le Memphis qui arrive à l'OL à ce moment-là, il a un profil qui n'est pas du tout utilisé de la même manière que celle dont il est utilisé aujourd'hui. Déjà, c'est un joueur plus jeune, il a 22 ans, il va sur ses 23. Donc là, il aura ses 27 ans en février. Et à ce moment-là, c'est plutôt un ailier gauche vraiment collé à la ligne qui rentre intérieur sur son pied droit. Donc c'est un ailier faux pied. Si on regarde ses heatmaps, c'est vraiment parlant, il est vraiment sa zone d'influence, c'est vraiment le côté gauche de laquelle il va pouvoir rentrer dans le dernier tiers sur son pied pour frapper par exemple. Alors que si on regarde ses heatmaps des saisons plus récentes, on voit que c'est un joueur qui occupe une partie de l'espace beaucoup plus large. Il a toujours une petite préférence qui est visible sur le côté gauche ou en tout cas le demi-espace gauche, mais il est beaucoup. Il est aligné à une position dans le 11, une position axiale, qui lui offre beaucoup plus de liberté et dans laquelle il peut naviguer sur toute la largeur. Et à Lyon, finalement, c'est vraiment dans cette position axiale qu'il a été le plus performant. Durant ses premières saisons à l'OL, il ne pouvait pas forcément occuper ses positions de manière systématique, puisqu'il y avait aussi Nabil Fekir, dont c'était la zone préférentielle, clairement l'axe. Et on a aussi vu que lorsqu'ils étaient alignés tous les deux ensemble, forcément leur qualité pure, leur qualité intrinsèque faisait que ça restait des très bons joueurs, mais les meilleures périodes de Memphis, je dirais, ont peut-être plus été en absence de Fekir et pas forcément les deux ensemble. On se rappelle de la saison 2017-2018 où il y a Fekir qui fait une super saison aller. Lors de la phase retour, il est blessé, il revient juste à temps pour la Coupe du Monde, mais c'est vraiment Memphis qui porte le Lyon durant la phase retour, où il est aligné dans un 4-4 de losange en attaque avec Bertrand Traoré. Donc Memphis, c'est un second attaquant, presque un 9,5 si vous voulez, dans ce dispositif. Tandis que Bertrand Traoré, il a plus sa charge d'attaquer la profondeur dans le dos ou de partir plus du côté, de rentrer avec des appels extérieurs-intérieurs. Et donc, dans ce dispositif, Memphis brille vraiment. Il marque son record de buts sur une demi-saison, il fait beaucoup de passes décisives. Il y a un match à Metz où il fait 4 passes décisives. Donc c'est vraiment dans l'axe que le profil de Memphis est le plus brillant. Je pense que même si on s'écarte un peu du football, que ça soit dans son rapport à l'art, il fait de la musique, il aime beaucoup la mode, les vêtements, les tatouages, etc. Voilà, c'est quand même un mec qui est très créatif et qui a besoin de s'exprimer aussi, mais il n'a pas toujours eu le meilleur cadre pour exprimer cette sensibilité créative, cette fibre qui est assez forte en lui. Voilà, Lyon, cette saison, est bien meilleur pour se créer de l'espace. Déjà en transition avec Kadewere et Toko Ekambi, c'est des profils qui sont très intéressants pour évoluer autour de Memphis, qui vont attaquer rapidement et de manière assez tranchante l'espace dans le dos des défenseurs sur transition offensive. Voilà, on a aussi vu pas mal de combinaisons, je pense surtout à Kadewere dans le match face à Lens par exemple, c'était assez flagrant. Il y a beaucoup de combinaisons de remise en une touche avec Memphis. C'était assez agréable à voir et je pense que Memphis profite aussi de joueurs comme ça autour de lui qui tranchent vraiment avec lui, sa façon de jouer. Donc Memphis, il tente beaucoup, tente toujours des gestes difficiles. Bah, on pense à son but, il y avait un but du milieu de terrain contre Toulouse, le but à la dernière minute contre le PSG. Forcément, c'est un mec qui aime toucher la balle, qui aime tenter des trucs difficiles. Son petit geste signature où il se retourne avec la semelle, il fait ça souvent le long de la ligne de corner. Et ces profils autour qui dénotent Kadewere et Toko Ekambi, qui eux justement ont un très bon jeu sans ballon d'abord, mais qui avec le ballon arrivent à faire des choses assez simples mais assez efficaces. Techniquement, ils sont vraiment plutôt propres cette année. Et ça dénote vraiment avec Memphis qui lui peut s'exprimer dans son registre et tenter des choses plus difficiles, toucher plus le ballon, je dirais. Et il faut aussi prendre en compte que cette année, il le fait de manière plus efficace. Alors, en termes de passes clés par match, il est plutôt dans ses standards habituels. En revanche, en termes d'expected assist, donc les passes décisives attendues qu'il devrait effectuer, bah on constate que ses passes sont beaucoup plus dangereuses cette année. Par 90 minutes, il en fait 0,54 cette année, et sa moyenne en carrière, donc depuis la saison 2015-2016 à Manchester United, elle était de 0,3. Donc voilà, le chiffre est presque deux fois plus élevé par rapport à sa moyenne en carrière. Et donc cette saison, il est vraiment dans un cadre idéal, ça fonctionne plutôt pas mal. D'un point de vue statistique brut, il est à 11 buts et 5 passes décisives en 19 matchs. Donc sur les stats que j'ai, c'est sur Understat que j'ai regardé ça. Il a une stat d'expected assist qui est de 8,37. Donc ses coéquipiers sous-performent un peu aussi à la finition. D'un point de vue créatif, si on peut appeler ça comme ça, il est particulièrement intéressant cette année. Et voilà, il a un cadre pour s'exprimer, je pense, qui lui convient très très bien cette saison. Donc voilà, il devrait partir libre cet été. Ça va être aussi son défi de trouver un cadre où il pourrait s'exprimer de manière aussi intéressante, voire encore mieux. Il a toujours été assez transparent à ce niveau-là sur le fait qu'il voulait jouer dans un grand club, qui finira a priori pas sa carrière à Lyon. Mais je pense que c'est quand même un joueur qui aurait été assez marquant pour les supporters pour plusieurs raisons. Ses buts, son talent pur ou même son flow incroyable. Et c'était aussi intéressant de revenir un peu comme ça sur son passage à Lyon. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter. Désolé, j'ai pas eu le temps de développer encore tout ce que je voulais, mais c'est déjà assez long. Donc je vais laisser Eloi reprendre la main pour la suite de ce podcast. Puis moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à bientôt, salut à tous.
Merci Axel, on suivra attentivement les futures performances de Memphis Depay, car peut-être que cette saison est enfin la bonne pour l'Olympique Lyonnais pour aller chercher le titre devant les Parisiens. Affaire à suivre. On enchaîne maintenant avec notre débat régulier. Cette semaine, on a décidé de parler handball avec le début du mondial masculin en Égypte le 13 janvier dernier. Pour rappel, les Bleus sortent d'un Euro 2020 plutôt compliqué et de deux rencontres périlleuses face à la Serbie pour les qualifications de l'Euro 2022. De quoi s'interroger sur l'avenir de cette équipe de France, on en parle tout de suite. Allez, on met le jingle.
Mais tu dis n'importe quoi. On a le droit de pas être d'accord. Je vais te rentrer aussi dans la gueule.
Tu veux toujours avoir raison.
Mes amis.
Ça, c'est des faux débats, ça.
Alors on passe maintenant au débat sur ce podcast Planète Sport. Aujourd'hui, avec la rédaction des Olympistes, on a décidé de parler handball et notamment de l'équipe de France masculine. Comme vous le savez, le mondial masculin de hand a commencé depuis le 13 janvier en Égypte. À l'heure où on enregistre le podcast, les Bleus ont remporté leurs deux premiers matchs de poule avec sérieux contre la Norvège et l'Autriche. Mais avant ça, on peut dire quand même que la Maison Bleue a vacillé avec une élimination surprise à l'Euro 2020 et deux rencontres poussives contre la Serbie lors des matchs de qualification pour l'Euro 2022. Mais avant de réellement commencer le débat, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Maël Le Gouriec. Salut Maël, comment ça va ?
Salut Eloi, salut à tous, ça va super, merci.
Alors on a également Thomas Palmier, salut Thomas, la forme ?
Salut Eloi, bah super, ça va super.
Et enfin Naël Magzoum qui nous avait déjà parlé de Rémi Desbonnet sur ce podcast Gardien de Nîmes en Little Star League. Salut Naël, comment ça va ?
Eh ben écoute, salut Eloi, ça va très bien, ça irait même mieux si tu disais handball et pas handball.
Ah ben je vais m'appliquer là-dessus, t'inquiète pas. Alors comme je l'ai dit en intro, les derniers matchs de l'équipe de France étaient assez mauvais, alors que la génération des experts nous avait habitués à des performances de haute volée. Est-ce qu'on peut dire que justement cette génération des experts a disparu aujourd'hui ? Je te lance Thomas.
Oh bah oui, clairement, et puis même eux-mêmes l'ont dit, hein. Je crois même qu'en intro de ce mondial, Mickaël Guigou et puis même le nouveau sélectionneur Guillaume Gilles l'ont clairement dit, c'est la fin des experts. Clairement, on est passé à autre chose, c'est une autre équipe, on l'a même vu sur le mondial 2018, il y a eu une passation de pouvoir avec les nouveaux, qui maintenant ne le sont plus, mais comme Nedim Remili, les joueurs qui ont pris beaucoup plus d'importance dans ce groupe France, on pense notamment à Quentin Mahé, aussi à Vincent Gérard, hein, qui avant, il faut bien le dire, avait la route barrée par un certain Thierry Omeyer. Il y a vraiment toute une génération qui éclot maintenant. Alors c'est sûr qu'on va sûrement en parler dans ce débat, hein, mais il faut un peu plus de temps pour justement que ça se construise, qu'il y ait un groupe qui se construise. Mais oui, pour moi, clairement, on est passé à autre chose et il faut qu'ils écrivent leur histoire maintenant.
Vas-y, Naël, si tu veux intervenir.
Oui, de toute façon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que cette génération des experts, elle est un peu derrière. Il y a eu tous les cadres qui sont sortis du groupe peu à peu. On a eu Fernandez, Omeyer, Narcisse, Dinard, avant aussi les cadres qui ont fait ce groupe France. Mais après, je pense qu'il y a un souci aujourd'hui de l'équipe de France, c'est que justement, on a du mal à passer complètement après cette génération des experts. Aujourd'hui, il reste en équipe de France un capitaine qui a 38 ans, qui s'appelle Mickaël Guigou, qui a déjà tout connu avec les Bleus, qui est un génie du handball, ça personne ne le remettra en question. Mais je trouve qu'il serait temps, on a des ailiers de qualité assez exceptionnelle en France, on a cette chance d'avoir des joueurs qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle équipe du monde et qu'on fait attendre chez les Bleus. Et voilà, c'est pareil, on a Lucas Ballot qui sur ce mondial est excellent jusqu'à maintenant, mais voilà, c'est un peu vieillissant. Et puis on a du mal à se dire qu'on passe vraiment à autre chose si on garde les anciens. Puis même quand on essaye de passer à autre chose, on ramène Yann Gentil à 36 ans qui avait jamais connu l'équipe de France. Et je pense qu'aujourd'hui on a une jeunesse qui est exceptionnelle, on a des talents dans tous les sens, mais qu'il va falloir vraiment les lancer un jour, sinon on risque de passer à côté de quelque chose. Et on voit aujourd'hui, on a des joueurs qui arrivent et qui sont capables d'être performants à 28, 29, 30 ans. Ils ont envie de ça et je pense qu'on peut les faire connaître l'équipe de France plus tôt.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Naël, surtout quand tu regardes le cas de Wesley Pardin, par exemple, qui a 30 ans et qui nous sort pour sa première cape dans un mondial, un match absolument exceptionnel face aux Norvégiens. Après, c'est toujours difficile de passer après une génération qui a véritablement tout gagné, plusieurs titres olympiques, plusieurs titres mondiaux. C'est toujours difficile cette transition qui doit s'effectuer. Pour autant, je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, il y a eu des transitions qui étaient beaucoup plus brutales. Je pense notamment à la fin de la génération des Barjots, ceux qui sont champions du monde en 1995. Daniel Costantini, l'entraîneur de l'époque, avait fait le choix de sortir du groupe Philippe Gardan, par exemple, qui était le pivot et capitaine emblématique de cette équipe pour les Jeux Olympiques de 1996. Alors on verra le groupe proposé par Guillaume Gilles pour ces JO 2020. Ça m'étonnerait qu'ils fassent le choix d'une rupture totale, mais en tout cas, ça pose question par rapport à l'histoire de l'équipe de France, par rapport aux moyens dont les ruptures se sont faites. C'est vrai que pour le coup, on a vraiment du mal à effectuer cette transition.
Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a été dit, parce que je pense que quand même, si on ne met pas en place une certaine transition avec quand même des joueurs qui restent dans ce groupe France pour faire passer, comme ça a été parfaitement dit, hein, faire passer leur expérience, leur vécu, notamment Mickaël Guigou, pardon. Mais si ces joueurs ne sont pas là, c'est compliqué, parce qu'on parlait notamment du poste d'ailier. Si Mickaël Guigou n'est pas là pour épauler au quotidien Hugo Desca, par exemple, un tout nouveau en équipe de France, qui certes arrive à maturité avec Montpellier, mais meilleur buteur d'ailleurs de la Ligue des Champions l'année dernière, Hugo Desca. Mais si Mickaël Guigou n'est pas là, lui qui a tout connu, les victoires, pas beaucoup de défaites, mais beaucoup de sacres mondiaux, olympiques, s'il n'est pas là pour lui donner toute l'expérience, tout le vice, parce que c'est vrai que le handball, quoi qu'on en dise, ça joue beaucoup sur l'expérience, le vécu, la confiance en son groupe et tout ce qu'on peut faire ensemble. S'il n'est pas là pour l'épauler, pour lui donner un petit peu ben justement les vices des championnats mondiaux et internationaux, je pense que c'est compliqué pour lui. Alors là, c'est un exemple très ciblé, mais je pense que pour les autres, c'est à peu près pareil. Et selon moi, faire une transition trop brutale avec d'un coup mettre que des jeunes à 25 ans, ça serait justement encore plus compliqué pour le groupe France, d'autant que même là, en gardant quelques anciens, on a vu sur les matchs de préparation que c'était pas facile du tout.
Vas-y Naël, je sais que tu veux réagir.
Oui, alors évidemment, je suis assez d'accord, évidemment qu'il faut une transition, on sait que l'expérience c'est quelque chose de capital dans le handball, mais moi je pense que la transition, elle a démarré dès le moment où Onesta a annoncé qu'il allait arrêter, et je pense que cette transition, elle a commencé à très bien s'effectuer au Mondial 2017, la victoire des Bleus. On avait encore à ce moment-là, on avait Karabatic, on avait Oumeyer, on avait Narcisse, on avait des joueurs de grande classe, et on avait à côté bah voilà, l'éclosion de Rémy Lee, de jeunes joueurs, Fabregas, qu'on connaissait pas beaucoup à cette époque-là, et qui... voilà, étaient capables de performer chez les Bleus. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi bons qu'à cette époque-là, parce que voilà, ils étaient effectivement très bien accompagnés. Mais le relais, il a dû se faire après. Il aurait dû se faire après. Et là, on est quand même 3 ans après ce mondial, même bientôt 4 ans après. Et bah voilà, on a du mal à voir s'il y a vraiment une transition ou pas, parce qu'aujourd'hui, on est obligé, il faut le dire quand même, un peu dans l'urgence, de devoir nommer un capitaine qui a 38 ans, et parce que c'est un peu le dernier taulier, et je suis pas sûr que ce soit la solution. Peut-être, on a connu des gros échecs quand même, hein, ces 2 dernières années, on s'est pris une volée contre le Danemark au dernier mondial, c'était quand même assez mémorable, c'était une humiliation, hein, faut le dire, on s'est pris 15 buts dans la tronche, et maintenant, je pense qu'il aurait mieux fallu peut-être repartir avec plus de jeunesse, avec des tauliers qui sont jeunes. Voilà, on a des tauliers qui sont jeunes aujourd'hui. Luka Karabatic, c'est un taulier, même s'il n'est pas évidemment très jeune, mais voilà, il est capitaine du Paris Saint-Germain. On a Ludovic Fabregas, qui est un taulier également. On a Nedim Rémy Lee, même si certaines de ses actions peuvent laisser un peu à désirer, mais... Ce sont des joueurs qui, eux, voilà, ont la carrure, ont les épaules pour... ils ont pas peur de ça. Ils ont déjà connu le très haut niveau. Donc je pense qu'on devrait partir pour faire confiance à plutôt ces jeunes-là et définitivement tourner cette page de cette génération extraordinaire qu'on ne retrouvera pas aussi facilement. Évidemment, je pense qu'il faut quand même réaliser qu'on a eu les meilleurs joueurs de l'histoire au même moment, dans un même pays, c'est quand même assez extraordinaire. On avait une équipe assez extraordinaire.
Alors justement, là, je voulais revenir à ce que tu as dit, Anaël. En 2017, l'équipe de France gagne une nouvelle fois le titre de champion du monde. Il y avait vraiment un beau mélange entre la génération des experts. Donc, il y avait Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, une nouvelle génération qui arrivait avec Dikamem, Denim Rémy Lee. Et on pensait justement qu'il y avait eu ce passage de témoin là, à cette époque. Est-ce que... Justement, ce passage de témoin ne s'est pas effectué et là, l'équipe de France est un peu en perte totale d'identité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, Maël ?
Je pense que on s'est beaucoup reposé sur nos acquis. Je pense que c'est le principal problème de l'équipe de France. Voilà, on a tout gagné pendant des années. On s'est un peu laissé porter avec nos glorieux anciens et on n'a pas vraiment fait ce travail de fond qui aurait été nécessaire de renouvellement de cette équipe, comme on l'a déjà dit. Après, d'un autre côté, il faut aussi être réaliste. Pour moi, Nicolas Karabatic, malgré le fait qu'il a plus de 35 ans, il reste encore totalement au niveau et tellement dominant et tellement utile que c'est pour moi impossible de ne pas le sélectionner. Pour autant, je pense qu'il y a des joueurs comme Michael Guigou ou Lucas Ballou qui pourraient laisser leur place. Après, honnêtement, il y a eu quand même une progression. La mise en retraite de Cédric Sorendo est pour moi disons une réussite, ou en tout cas un point de passage très fort. C'était l'ancien capitaine. Donc pour moi, c'est très important. Mais moi, je pense qu'il y a tout de même de l'espoir. Pour le coup, ce début de mondial est vraiment exceptionnel. On voit des joueurs comme Nedim Rémy Lee, notamment, qui prend de plus en plus d'espace. Il parle beaucoup dans les temps morts, par exemple. Donc moi, je pense que cette équipe, elle est en train de se fabriquer des nouveaux leaders. Et je pense que ce mondial peut être un formidable tremplin.
Vas-y, Thomas, je te laisse la parole.
Après, attention, je pense à ce qu'on pourrait qualifier de copinage avec Guillaume Gilles, qui, je pense, nouveau sélectionneur, qui a fait 4 matchs à la tête des Bleus, du coup, maintenant, à un moment où on enregistre ce podcast. Attention, je pense, parce qu'il a tellement un lien affectif, on le sait, avec l'équipe de France, il a gagné pas mal de titres, qu'il pourrait y avoir, avec les certains Karabatic et tout ça, ce phénomène-là de « je connais personnellement les joueurs et je peux ne pas... » en lancer d'autres ou comme ça. Alors après, ça reste une hypothèse, mais attention au fait que Guillaume Gilles soit vraiment hyper familier, même peut-être trop, avec cette équipe de France-là. et ça pourrait peut-être jouer des tours à ce groupe France. Alors après, c'est vrai que pour revenir sur le début de mondial, ça a été dit, il est très convaincant. Il y avait eu deux matchs contre la Serbie, franchement, là plutôt au contraire assez inquiétant. Tu le disais, Eloi, il y avait une identité de jeu qui était moyennement retrouvée, ou en tout cas moyennement construite. C'est vrai que à décharge, et pour enlever un petit peu de responsabilité au staff, honnêtement, la période Covid n'a pas forcément aidé. Évidemment, ils n'ont pas pu se voir du tout, pas pu mettre de schéma de jeu en place. Détailler leur projet de jeu et leur identité de jeu aux joueurs. On voit par exemple au rugby, ça a été fait, notamment de la part du staff de Fabien Galthié. Là, ça a été bien posé. Mais là, au hand, c'est vrai qu'il y a un laps de temps hyper court qui n'a peut-être pas permis au staff d'effectuer cette action-là, hyper importante dans la construction d'un groupe.
Vas-y, Naël, si tu veux réagir.
Bah justement, pour revenir un peu sur ta question, sur voilà, de savoir si cette transition elle a vraiment eu lieu, bah je pense qu'il y a eu, malgré tout le travail, parce qu'il faut quand même le dire, qu'on a une fédération de handball en France qui fait un travail remarquable depuis bientôt 30 ans quand même. Et c'est vraiment, je pense, une des fédérations qui travaille le mieux pour atteindre des objectifs quand même, et qui met beaucoup de choses en place pour ses licenciés, que ce soit du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Et c'est aussi l'un des secrets de cette réussite qui a mis du temps à se dessiner. Mais on a vu où ça nous a amené, donc il ne faut pas non plus cracher sur la fédération parce qu'on a là 3-4 ans de vide, ce qui devait arriver de toute façon un jour ou l'autre. Au-delà de ça, moi je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la passation de pouvoir. Après Claude Onesta, on a eu Didier Dinard qui était avec Guillaume Gilles. On a bien vu qu'avec Dinard, ça n'a pas forcément marché, pourtant ça nous a quand même amené à un titre en 2017 chez nous en France, ce qui était absolument crucial. Il fallait s'imposer sur ce mondial parce qu'on savait que sinon, ça pouvait causer de vrais soucis parce qu'on savait qu'on allait avoir le départ des anciens et que on allait aussi avoir le départ du coach Onesta. Et donc voilà, on savait qu'il pouvait y avoir des difficultés. Mais je pense qu'il aurait fallu plutôt, on a bien vu qu'avec Dinard ça n'a pas marché, il s'est fait limoger, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec lui, ça n'a vraiment pas fonctionné. Et derrière, on parle de nouveautés, de nouveaux coachs. On met Guillaume Gilles qui était l'adjoint de Dinard et on met un nouveau capitaine, Guigou, qui faisait partie de cette génération, qui a connu finalement aussi ses derniers échecs. Moi je pense qu'il aurait fallu, en France, comme je l'ai dit, on a eu les meilleurs joueurs du monde, mais on a eu aussi, et on a aussi encore, les meilleurs entraîneurs du monde, les meilleurs sélectionneurs, qui pourraient être les meilleurs sélectionneurs du monde. On a en France Patrice Canaillé, Thierry Anty, même Eric Maté, qui aujourd'hui est l'adjoint de Guillaume Gilles. C'est un bon choix, mais je pense que franchement il aurait fallu, si on veut vraiment relancer cette équipe de France, choisir un coach de renom. Onesta, juste le nom, on savait que c'était un génie. Il avait les meilleurs joueurs, mais là aujourd'hui, Canaillé ou Anty, ils font des prouesses fantastiques. Canaillé allait remporter la Ligue des Champions il y a 3 ans avec une équipe qui n'était quand même pas la meilleure d'Europe. Il faut le dire, Montpellier à ce moment-là, c'était pas la meilleure équipe d'Europe, même si c'était une excellente équipe, c'était pas la meilleure équipe d'Europe. Thierry Anty, il est allé en finale de la Ligue des Champions avec une équipe qu'on n'attendait même pas en 8e de finale. Donc ce sont deux entraîneurs qui sont absolument exceptionnels, ce sont des génies du handball. Après on en pense ce qu'on en veut, chacun a son avis, mais je pense qu'aujourd'hui, Guillaume Gilles, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, il est un peu, comme Dinard d'ailleurs, dans ce truc de être proche des joueurs, laisser les joueurs parler, mais il faut quelqu'un aujourd'hui, je pense, qui s'impose. Il faut quelqu'un qui mette la main véritablement sur ce groupe, qui montre qu'il y a un patron, et il faut écouter quelqu'un, je pense. Il faut une voix vraiment forte au-dessus des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, même si on veut des leaders, je pense qu'il en faut vraiment un au-dessus d'eux. Rémi Lee, comme on a dit, tous les noms, Dikamem, tout ça, ça peut être des formidables leaders, mais ils sont encore jeunes malgré tout. Et je pense qu'il faut quand même quelqu'un qui est capable, au temps mort, de parler 50 secondes sur une minute. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Gilles, il parle 3 secondes sur une minute. Des fois, il n'ouvre même pas la bouche pendant un temps mort, et ça, c'est pas possible.
Là, tu fais quelque chose d'intéressant, Naël. Justement, cette passation de pouvoir, comme tu le disais, c'était compliqué entre Dinard et Guillaume Gilles. Il y a eu des tensions sur cette succession. Et est-ce que, en fait, ce malaise est encore présent aujourd'hui sur cette équipe de France et ça pèse un peu sur les performances? T'en penses quoi? Vas-y, Naël, je te redonne la parole.
Bah, évidemment qu'il est encore présent. Et de toute façon, là, l'équipe de France est toujours dans cette période de malaise. Et enfin, comme je viens de le dire, on a parlé de nouveautés, et puis au final, on a attendu 8 mois, 9 mois après la nomination du sélectionneur Guillaume Gilles de voir un premier match officiel à cause de la Covid. On a fait 2 confrontations face à la Serbie, qui n'est même pas qualifiée pour ce mondial, même si c'est une équipe de qualité, il faut bien le dire. Et on a été encore une fois très déçus, on a eu l'impression de revenir 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, quoi. Donc oui, il y a toujours ce malaise. Les joueurs aujourd'hui, ils ont une forme de pression. Et j'ai envie de dire, ils ont eu énormément de chance dans ce mondial de tomber sur une Norvège qui était dans un état encore pire que le leur. Parce que la Norvège aujourd'hui, elle a beaucoup de qualités, mais c'est pareil, elle a des joueurs qui sont là depuis 5, 10, parfois 15 ans, qui sont des joueurs de très haut niveau, mais qui commencent à être vieillissants. Et je pense que là, peut-être qu'ils arrivent au bout de quelque chose. Ils ont perdu contre la Biélorussie en match de préparation. Franchement, on ne les attendait pas forcément à perdre contre la Biélorussie. Donc, on a eu de la chance de pouvoir s'imposer, quand même, on va le dire, assez facilement par rapport à l'opposition qu'on aurait dû avoir, surtout par rapport à ce qu'on a montré précédemment. Mais oui, clairement, les joueurs, heureusement qu'ils ont pu se libérer de cette pression, parce qu'on voit que derrière, face à l'Autriche, même si évidemment c'est un match qui était plus à notre portée, on a pu être plus performant. Au moins, ils vont pouvoir faire un mondial beaucoup plus libéré que si ils s'étaient pris, comme je pense 95% des gens l'imaginaient, une correction face à la Norvège, parce qu'on s'attendait vraiment pas à gagner ce match contre la Norvège. Personne ne s'attendait à gagner.
Je te trouve très très dur, Naël, parce que pour moi, le match contre la Norvège, il est vraiment très intéressant. Enfin, faut pas oublier qu'ils ont quand même le meilleur joueur du monde, Sander Sagosen, dans leur rang. Le joueur, il est injouable depuis le début de la saison. Honnêtement, enfin, je veux dire, on a proposé des choses qui défensivement étaient super cohérentes. On a bien protégé nos gardiens. Ils ont été au niveau tous. On s'est tous mis au diapason. Moi, je sais pas, j'attends beaucoup de voir. De voir ce que va faire ce mondial pour juger Guillaume Gilles. Parce que, certes, il a connu une entame de mandat extrêmement difficile avec deux matchs catastrophiques contre la Serbie, mais il n'avait pas vraiment eu le temps de beaucoup travailler ses enclenchements, sa méthode aussi. Si tu veux changer de méthode, si tu veux provoquer de nouvelles choses, il te faut, pour moi, du temps. Et pour le coup, il a eu, que je crois, deux ou trois semaines de travail suite à la crise du Covid. Donc moi je dis donnons le temps à cette équipe, donnons le temps aux joueurs qui viennent d'arriver de grandir. Je pense à Hugo Desca, je pense à Wesley Pardin qui ont enfin des rôles qu'ils méritent, mais voilà, moi je suis plein d'espoir pour cette équipe de France, et je trouve qu'il faut quand même pas sous-estimer cette performance et ce début de mondial qui est, honnêtement, il n'y a pas grand chose à enlever de la performance des Bleus, quoi. Ils sont solides défensivement, on a enfin retrouvé une défense vraiment agressive autour d'un secteur 1 et 2 entre Luka Karabatic et Fabregas, qui est extraordinaire. On a retrouvé des gardiens puissants, Wesley Pardin, Vincent Gérard est enfin dominant. Donc pour le coup, attendons de voir et ayons le sourire, profitons aussi de cet état de grâce qui pourrait durer.
Alors, dernière question, les gars, elle est assez simple. Vos pronostics pour les Bleus sur ce mondial Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y Thomas, si tu veux jouer les pronostics, on va dire.
compliqué, on sait que là, en ce moment, la France est qualifiée pour le tour principal. Honnêtement, je pense que ça va jouer sur la profondeur d'effectif, la profondeur de banc de l'équipe de France. On a pu voir contre l'Autriche que la France était plutôt pas trop mal lotie pour l'instant. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, hein, ça a été dit, l'Autriche, c'est pas le grand favori, loin de là, de ce mondial, mais on a vu des joueurs qui se sont montrés plutôt leur évidence. Je pense à Quevillot, il faut encore voir Nicolas Tournat, il faut encore voir des joueurs comme ça qui peuvent prouver. L'équipe de France, je sais pas, un pronostic, c'est compliqué. Moi, j'aurais dit demi-finale, et on tombe sur plus fort que nous en demi-finale.
Naël, est-ce que tu veux tenter les pronos?
Alors franchement, autant d'habitude, je tente des choses, mais cette année, je trouve que c'est particulièrement compliqué de savoir où est-ce qu'on va, en fait, parce que ce mondial, c'est quand même, j'ai quand même l'impression, une grande inconnue pour beaucoup, beaucoup de monde, et on n'est franchement pas la seule équipe, je trouve, à être en difficulté, hein. C'est vrai que j'ai été assez critique avec les Bleus, mais cette critique, elle est générale, et au-delà de la critique de l'organisation qui biaise complètement ce mondial, puisqu'on a aujourd'hui des équipes qui ont des effectifs pour aller chercher des demi-finales, voire des finales. Je pense à l'Allemagne, là. Hein. Mais on a une équipe d'Allemagne aujourd'hui qui est quand même pas du tout celle à quoi elle devrait ressembler, avec des cadres, notamment ceux de Kiel, hein, qui ont remporté la Ligue des Champions, qui ont fait le choix de ne pas venir. C'est le cas également pour la Croatie. On peut le dire, presque l'un des trois meilleurs joueurs du monde, Domagoj Duvnjak, qui n'est pas là parce que, pareil, il a fait le choix de ne pas venir pour ce mondial. On a des stars comme ça qui sont absentes un peu en pagaille. Donc franchement, ça rabat beaucoup les cartes. Aujourd'hui, la France fait très bonne impression, il faut être honnête. sur ces deux premiers matchs de mondial. Sortir un pronostic comme ça, ouais, c'est vrai qu'une demi-finale, mais moi j'irai plus loin, hein. Je pense qu'on peut être champion du monde. Allez, on peut au moins viser la finale, je pense, parce que franchement, comme je vous dis, parmi les équipes qui sont, on va dire, traditionnellement favorites, la Norvège, on a vu qu'on était capable d'aller les chercher, en tout cas sur ce début de mondial, à voir par la suite.
On peut peut-être rajouter qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas forcément vus pour l'instant, genre, je sais pas, Dikamem, Valentin Porte, des joueurs qu'on a vraiment, on n'a pas vus pour l'instant, ils sont pas transcendants, et c'est justement une source d'espoir, quoi, tu vois.
Ouais. Bah après, moi, je trouve, juste pour finir, je trouve quand même que Porte est au niveau. Après, c'est vrai que Dikamem, bon, il a connu un départ un peu poussif, mais c'est pour ça que je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on est quand même un peu tous déçus de pas plus voir Nicolas Tournat, notamment contre l'Autriche, où on sait que ça va être moins relevé. C'est un pivot qui est quand même un des tout meilleurs pivots d'Europe, notamment, surtout en attaque. Pourquoi ne pas le faire jouer un peu plus, quoi? Et puis, bon, au moins la satisfaction, c'est à Quevillo, hein, qui rentre et qui, pour être honnête, est le meilleur arrière-gauche depuis le début de ce mondial, parce que Lagarde et Nguessan n'ont pas été forcément extraordinaires depuis le début de ce mondial. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir rapidement sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros chantier, c'est le poste d'arrière-gauche qui est le poste clé du handball moderne. Et ben, on n'a pas forcément un arrière-gauche de très haut niveau comme on a pu avoir. Après, c'est sûr qu'après Fernandez, Narcisse, éventuellement Karabatic, c'est compliqué d'aller chercher quelque chose derrière, mais c'est vrai qu'il va falloir combler ce vide.
Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que... Enfin, c'est assez bizarre, le cas Nguessan est vraiment très particulier parce que on a l'impression qu'il performe à un très bon niveau au Barça. Et dès qu'il arrive en équipe de France, il est bridé alors qu'il a les capacités pour. Enfin, on se souvient de son incroyable tir à la sirène, il me semble que c'était pendant le Mondial 2019, contre l'Allemagne pour arracher le nul. Voilà, il a les capacités, il a le bras. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est moi, je trouve ça vraiment incompréhensible qu'il n'arrive pas à se sublimer. Je pense que c'est aussi ça la grosse différence avec cette équipe de France par rapport aux précédentes. C'est que j'ai l'impression que certains joueurs ont du mal à se sublimer, à élever leur niveau par rapport à leur zone de confort quand ils sont en club.
Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Maël, c'est que bah ouais, on a du mal à retrouver en fait une équipe de France avec un vrai fond de jeu. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a des joueurs qui, pour prendre le cas Rémilly par exemple, il y a 3 ans, il y a 4 ans, quand il joue en équipe de France, quand il arrive en équipe de France, il s'intégrait parfaitement au fond de jeu de l'équipe de France qui était beaucoup fait sur un travail énorme de la base arrière, un gros travail avec des gros temps de fixation et des décalages qui aboutissaient souvent quand même. Et là, je trouve que Rémilly, depuis... Alors, c'est le jeu du Paris Saint-Germain. On sait que c'est un jeu qui est quand même très arrêté, qui cherche beaucoup les pivots, les tirs assez puissants des arrières. Voilà, ça, c'est le jeu stéréotypé du Paris Saint-Germain, qui est maintenant très connu, qui n'est pas forcément le plus agréable à voir, il faut bien le dire. Mais du coup, le problème, c'est que Rémilly, étant devenu cadre, maintenant, il part un peu sur ce fond de jeu-là en équipe de France. Et ça, enfin, je trouve que... On n'a plus cette rapidité. Alors, attention, je généralise, mais c'est évidemment pas le cas à chaque attaque, hein, mais... D'une manière générale, on a beaucoup de mal à retrouver de la vivacité, de la rapidité en attaque et de la continuité de jeu, quoi. On fait vraiment des attaques qui sont très très souvent arrêtées. C'est quand même très rare de voir des beaux décalages qui utilisent l'ensemble, qui mobilisent l'ensemble de l'attaque. Donc il va falloir aussi retrouver peut-être un fond de jeu qui a fait notre gloire. C'était un handball qui était déjà beaucoup plus plaisant à voir, mais aussi quand même beaucoup plus efficace.
Ok, ben merci les gars pour ce débat, c'était très intéressant. On suivra de très près les prochains matchs de l'équipe de France en espérant qu'ils ramèneront la coupe à la maison. Allez, à plus les gars.
Salut, ciao.
Salut.
Salut.
On passe maintenant à la chronique. C'est l'heure du briefing présenté cette semaine par Louis Mathieu. Récemment, le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié, a dévoilé son groupe de 37 joueurs pour préparer le prochain tournoi des 6 nations. Entre surprise et confirmation, Louis, tu reviens avec nous sur la sélection de Fabien Galthié. Allez, jingle.
Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!
Attention, dessus!
Non !
Oh les gars, c'est l'heure du briefing.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la liste des 37 joueurs du 15 de France, annoncée le 11 janvier, qui joueraient le 6 Nations 2021. Covid oblige, impossible d'employer autre temps que le conditionnel. D'autant que le tournoi des moins de 20 ans et celui des féminins ont été mis en stand-by. Mais alors, que nous réserve cette liste concoctée par l'ami Galtier et son staff? En tout cas, rien de bien surprenant tout de même. Le sélectionneur des Bleus, fidèle à lui-même, garde un groupe avec une assise solide où certains joueurs sont des indéboulonnables. Le Roux, Olivon, notre victorieux capitaine, Dupont, qui d'ailleurs on peut se demander n'est-il pas le meilleur neuf du monde aujourd'hui, et bien évidemment notre paire de centre Fiku Vakatawa. A noter tout de même l'absence à l'ouverture d'un de ses indéboulonnables, Ntamack. Une absence due à sa fracture de la mâchoire, contractée le 28 décembre dernier contre l'UBB en top 14. Si Ntamack a prouvé qu'il était bien l'un des meilleurs à son poste, son suppléant, Jalibert, quant à lui, a démontré au cours de cette première partie de saison, tant avec l'UBB qu'avec la sélection, qu'il avait le talent nécessaire pour endosser le rôle de titulaire. Pari coché, l'absence d'Ntamack va offrir également à Carbonel, l'autre ouvreur sélectionné, la chance d'obtenir plus de temps de jeu avec les Bleus. Autre petite surprise de cette liste, les choix de Georges-Henri Colombe, 22 ans, Donovan Taofifenua, 20 ans, et Julien Delbouis, 21 ans. Trois joueurs qui sont convoqués pour la toute première fois avec les Bleus. Des choix forts pour le Cadurcien, pour qui le jeune Colombe et Winnie Antonio, un revenant qui, malgré son physique impressionnant, a ses limites en mêlée. Donc ces deux-là ont supplanté Aldeguerri, Dorian Aldeguerri, le Toulousain, longtemps numéro 3 dans la hiérarchie des piliers droits. Ce qui est dommage d'ailleurs pour Aldeguerri, c'est qu'il aurait pu profiter justement de l'absence de Bamba, blessé au cervical, habituel numéro 2 d'ailleurs, mais surtout de la crise sportive que vit Awas en ce moment à Montpellier, qui finalement risque probablement d'endosser son rôle habituel de titulaire. Donc oui, Montpellier qui, après leur défaite, d'ailleurs en territoire Coujou il y a deux semaines, se sont à nouveau inclinés face à Castres lors de la dernière journée de top 14. Donc le club de Moed Altrad en perdition, hein, ce qui peut expliquer d'ailleurs la non-sélection de Vincent Rathès aux ailes. Et si on a l'habitude de dire qu'à l'aile la vie est belle, en équipe de France c'est un poste où on a peut-être le plus d'interrogations. Bien que Penaud fasse son retour avec les Bleus, seul le Clermontois du groupe d'ailleurs, avec Thomas il n'offre pas toujours des grandes garanties défensives. C'est pour dire gentiment qu'ils ont l'habitude d'être des courants d'air. On connaît l'importance des ailiers dans le système de rush défense d'ailleurs implanté par Sean Edwards. Si Villiers a prouvé et a montré de très belles choses cet automne, il n'en reste pas moins assez inexpérimenté. Et Taofifenua, lui, n'a tout simplement pas d'expérience en équipe première. Il était aussi important de remarquer au centre l'absence de Jonathan Danti et de Barak, qui eux étaient dans le groupe hein, pour disputer l'Autumn Nations Cup, au profit du jeune Delbouis, le francilien. Et d'ailleurs, c'est étrange de ne pas retrouver Danti et Barak, puisque Yoram Moefana, lui qui avait montré de très bonnes choses. Le centre de l'UBB s'est blessé à la cheville et lui sera indisponible certainement intégralement. Aussi, à noter que les prestations de Jelon, Pesanti et Dulin, eux qui ont également disputé l'Autumn Nation Cup, leur ont permis d'intégrer l'équipe première, avec un vrai coup à jouer d'ailleurs hein, pour Brice Dulin, pour aller chercher la place de titulaire à l'arrière de Anthony Boutier qui, comme Awas, Rathès, Vincent, Villemc, se retrouve dans l'œil du cyclone avec Montpellier. En somme, Galtier propose un socle solide avec des ajustements cohérents qui offrent aux 15 de France la possibilité de rester autant compétitif et de nourrir, à mon sens, de grandes ambitions pour cette édition 2021.
Merci Louis pour ce petit point sur cette sélection française. Alors le prochain rendez-vous pour le 15 de France, c'est le 6 février prochain face à l'Italie pour la première journée du tournoi des 6 nations. Alors malheureusement, l'émission Planète Sport touche à sa fin. Vous pouvez retrouver comme d'habitude le podcast sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous donne aussi rendez-vous sur notre site web http://lesolympistes.com. Vous y retrouverez de nombreux articles sur l'actualité sportive. On vous attend également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast. À plus les sportifs.